Bonjour, vous êtes à l'écoute de l'émission mensuelle de l'association No House et le Dire, ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales. Vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 13h à 16h au numéro suivant, le 01 47 07 39 55, je répète, le 01 47 07 39 55. Vous pouvez également consulter notre site internet noaoserledire.fr et nous retrouver sur Facebook. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Vanessa Elkaïm Rimer. Vous êtes avocat en droit de la famille. Exactement. Vous faites également partie de la commission des femmes dans la cité au CRIF et vous animez une commission, l'atelier des violences faites aux femmes. Et il y a d'ailleurs un petit fascicule qui a été édité. Bonjour.
Bonjour.
Nous allons donc parler bien évidemment des violences faites aux femmes, à la fois psychologiques et physiques. Et vous allez nous expliquer, vous allez expliquer surtout à nos auditrices et à nos auditeurs quel est l'arsenal mis en place pour pouvoir se défendre en cas de violence.
Merci beaucoup en tout cas de me recevoir et de permettre justement aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent de permettre de comprendre en fait cette problématique et surtout de savoir qu'aujourd'hui encore, ce fléau sévit encore beaucoup puisqu'on a recensé chaque année 210 000 femmes victimes de violences physiques ou psychologiques, voire sexuelles, de la part de leurs conjoints. Ce chiffre est très alarmant. Trop aujourd'hui. Et pourtant, ce que vous avez souligné à juste titre, on a un arsenal juridique très développé. Alors, à la fois dans notre code civil, notre code pénal, on va parler tout de suite des violences physiques et on fait une distinction dans notre code pénal entre les violences ayant entraîné une incapacité de travail temporaire supérieure ou inférieure à 8 jours. Dans l'un des cas, donc le inférieur à 8 jours, vous avez une peine d'emprisonnement de 3 ans et de 45 000 euros d'amende. Dans le deuxième cas, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, ce qui est peu pour certains, ou en tout cas, c'est un début. Vous avez, et ce qu'on sait un peu moins, surtout parce qu'il y a des problèmes de preuve, ce sont les violences psychologiques. Et effectivement, elles existent. Elles ont été d'ailleurs soulignées à la fois dans notre code civil, et cette problématique est même prise en compte par le juge aux affaires familiales, dans les problématiques de divorce, justement. Et vous avez également ce point-là qui est également vu dans notre code pénal, puisque c'est considéré depuis le 9 juillet 2010 comme un délit. Alors, une question un petit peu, j'allais dire, qui va de sens, et surtout, peut-être que nos auditeurs et nos auditrices se posent la question, qu'est-ce qu'on entend par violence psychologique ? On a emprunté un petit peu le même mécanisme en droit du travail, où justement, il faut un comportement ou des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie. Vous allez me dire, effectivement, on a des éléments précis, en droit du travail, et je fais un parallélisme peut-être maladroit, mais quand on s'estime victime de violences psychologiques, on va voir le médecin du travail qui pourra déceler cette problématique-là. Or, aujourd'hui, quand on est victime de violences psychologiques dans le cadre familial, on va pas voir directement le médecin du travail. Pour certains et certaines, justement, elles sont un peu démunies, et pensant même que, j'allais dire, c'est même pas pénalement répréhensible. Et là, justement, une vraie difficulté, c'est le huis clos familial, et c'est pour ça que je dis toujours, il faut briser le silence, tenter de parler à ses proches, aux personnes de confiance, à des professionnels, justement pour les aider et justement agir. Et agir justement indépendamment de ces violences pour justement saisir la justice et j'allais dire à la fois le juge aux affaires familiales dans le cas d'une rupture hein, et également le juge pénal, on a également cette possibilité d'accompagner ou de se faire accompagner au commissariat pour porter plainte. Alors attention, je dis bien qu'il faut porter plainte, qu'il ne faut pas absolument pas faire une main courante. Beaucoup de femmes déjà ont des difficultés à franchir le seuil d'un commissariat, mais absolument, j'attire l'attention de tous sur le fait que seule la plainte a une possibilité de déclencher l'action publique, c'est-à-dire d'obtenir des sanctions de l'auteur des faits.
Juste, excusez-moi de vous interrompre. En cas de violence psychologique, est-ce que la personne peut porter plainte ?
Ah, bien sûr, elle peut porter plainte, puisque c'est considéré comme un délit. La seule difficulté, Mme Silbert, c'est que finalement, on a un problème de preuve. C'est-à-dire que vous avez des manipulateurs, des manipulatrices aussi, qui vont dire, dans le cas d'un divorce, pour préparer le divorce, mon mari est extrêmement violent, psychologiquement, il m'humilie, il m'insulte, et comme je vous le dis, vous avez bien compris, on est dans un huis clos familiale et personne n'est là par principe, à part les enfants, et on en parlera un peu plus tard, qui se pourrait attester. Et du coup, c'est là la difficulté, et c'est aussi, comprendre aussi ce qui peut se passer dans un commissariat. Quand vous avez une personne qui vient en se disant « je suis victime de violences psychologiques », alors c'est vrai que maintenant on en parle beaucoup, et donc c'est vrai que les commissariats commencent à être ouverts à cette problématique-là, mais certains vont dire « mais concrètement, madame, vous avez des preuves, expliquez-moi ». Et c'est vrai que certains, ça peut dissuader d'aller justement franchir la porte d'un commissariat ou tout simplement de porter plainte directement au procureur de la République. C'est aussi une possibilité qui leur sont offertes.
Donc il faut trouver des témoignages.
Voilà, trouver des témoignages. Dans ces cas-là, on voit beaucoup, comme je vous disais, une dégradation des conditions de vie, c'est-à-dire que quelqu'un qui est victime de violences psychologique, c'est quoi ? On va maigrir, on va grossir, on va s'isoler. Au travail, si ces femmes, en l'occurrence, travaillent, elles vont avoir des difficultés, dans au quotidien. Et c'est peut-être avec ces ficelles-là qu'il faut justement tirer ces ficelles-là pour les aider et justement briser cet isolement et agir justement.
Donc, on continue peut-être dans l'arsenal des...
Bien sûr. Donc ça, justement, indépendamment de ça, vous avez, et ce dont nous parlons, un peu plus fréquemment aujourd'hui, ce qu'on appelle les ordonnances de protection. Une ordonnance de protection, c'est une mesure provisoire qui est décidée par le juge aux affaires familiales et qui permet justement d'évincer le conjoint violent. Et vous voyez, les violences psychologiques, comme je vous le disais, elles sont rentrées dans le code, puisque quand on parle de violence, c'est pas réducteur, on ne parle pas que des violences physiques, mais également le magistrat est apte à apprécier les violences psychologiques qui peuvent être évoquées, invoquées par les victimes. Et dans cette ordonnance de protection qui date également du 9 juillet 2010, qui est vraiment cette loi est très intéressante puisque justement elle a conscience de cette problématique des violences faites aux femmes, et justement vous avez également l'autorité parentale, on va se poser la question de savoir l'autorité parentale, de savoir qui aura la résidence principale de l'enfant. Et donc, c'est toutes des mesures provisoires que va pouvoir décider le juge très rapidement. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que hier, on avait beaucoup plus de mal à obtenir ces ordonnances, il fallait un délai, puis beaucoup ne l'utilisaient pas, cet outil-là. Aujourd'hui, beaucoup plus, on l'utilise beaucoup plus, les magistrats le donnent, beaucoup plus fréquemment. Moi, je le vois au quotidien, quand je demande une ordonnance de protection, j'ai une date assez rapide, ce qu'on n'avait pas antérieurement. Voilà, donc ça, c'est vraiment un arsenal, très fourni. Et là, donc, avec cette ordonnance, j'insiste sur le fait qu'il faut, dans ces cas-là, saisir le juge aux affaires familiales. Et c'est vrai, il faut des éléments concrets. Donc, c'est vrai que certaines femmes se disent « moi, j'ai pas grand-chose, mon mari est violent, j'ai pas porté plainte ». Jusqu'à très récemment, il fallait porter plainte pour expliquer, justement, pour avoir un dossier un peu fouillé et fourni. Et on va voir que, justement, postérieurement, on a une avancée, une évolution, justement, parce que des chiffres parlent en disant qu'il y a toujours eu des violences aussi loin qu'on s'en souvienne. Mais aujourd'hui, ce fléau, il est toujours actuel. Et on a carrément fait, un audit de justement pourquoi les choses n'avancent pas. Alors, un audit, récemment, on a parlé du Grenelle, du Grenelle sur les violences, justement, où on s'est dit, on va se poser un moment, on va voir ce qui existe, on va voir justement quelles sont les solutions à apporter et surtout les défaillances. On parlait tout à l'heure de la difficulté de franchir la porte d'un commissariat, de porter plainte. On a moins parlé également, et ça, moi, c'est en tant qu'avocat, je le dis, souvent, vous avez certains magistrats qui ne sont pas... moins formés à cette problématique-là, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère dans le cas d'une séparation, d'une résidence alternée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une femme victime de violence, elle peut elle doit, dans ces cas-là, demander d'avoir la résidence principale de l'enfant et, j'allais dire plus que ça, réduire, voire supprimer, entre guillemets, les visites du père, ouais. puisque jusqu'à présent, et ça, c'est je rends hommage au juge Durand, qui est juge aux affaires familiales à Bobigny, qui disait que on ne peut pas scinder la problématique entre protéger la mère et protéger les enfants. Si on est un mauvais mari, on est un mauvais père. Voilà, donc ça, c'est vraiment des points qui sont importants et justement, on verra par la suite l'évolution.
Je vous propose de faire une petite interruption musicale
avec
et
plaisir.
Puis nous reprendrons notre entretien tout de suite après.
מכוונת השעון, הלילה לא ילך לישון, היא לא שואלת. מעיף מבט אל החלון, עוזב כואב, לא מתעכב, נועל את הדלת. הוא מתרחק ממנה, הולך ולא חוזר לשם. אחר כך הנה, מחר, מקום אחר. לא מפחד מהבדידות, הוא לא עוצר להיזכר, נוסע הלאה. האהבה היא זמן שאול, היא כמו חתול שנעלם אל תוך הלילה. היום, בבנימינה נוסע לאלה, שובר לארגנטינה, משם לבומביי. יוצא החוצה אל האור, הוא כמו שיקור בין האספלט והשמיים. נושם עמוק, נושם רחוק, חולם זורם, זמן מתקתק בעצלתיים. אופניים לתהיתי, רחפת לשנחי, צוללת להייתי, זינזנה לתל חי. לא משנה לאן, כי כל מקום זה כאן, ושום דבר לא מחכה לי. אל תחפשי אותי, אני תמיד איתי, כדור הארץ מתגלגל לי.
Nous reprenons notre émission de l'association Noah Osez le dire. Je vous rappelle que cette association est une ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales, que vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 13h à 16h au numéro suivant, le 01 47 07 39 55, je répète, le 01 47 07 39 55. 39 55. Vous pouvez consulter notre site internet noaoserledire.fr et nous rejoindre sur Facebook. Nous reprenons notre entretien avec maître Vanessa Elkaïm-Rimer, qui est avocat droit de la famille et qui nous expliquait tout l'arsenal qu'on pouvait trouver concernant les femmes victimes de violences conjugales. Donc, dans une deuxième partie, eh bien, vous avez bien sûr entendu parler des accords de Grenelle. Donc, je voulais vous demander ce qu'il en était sorti concrètement.
Alors, tout à fait. Vous, comme vous le savez, en tout cas, et vous l'avez souligné à juste titre, on a eu justement le Grenelle des violences. Et un certain nombre de points ont été évoqués, notamment la levée du secret médical. Également, on a mis en évidence des centres de prise en charge pour les auteurs de violences, de même que la confiscation des armes à feu. Et on a évoqué le suicide forcé. Justement à la suite de violences. On a également attiré l'attention sur le fait que dans ce cas-là, dans ces hypothèses-là, la médiation pénale est interdite. Enfin, on a mis l'accent sur le fait qu'il était important de former à la fois les enseignants à l'égalité, j'allais dire filles, les garçons, également la formation des magistrats, la formation de professionnels dans les gendarmeries, les commissariats, et également concrètement d'avoir développé des places d'hébergement avec des procureurs référents. Et donc ça, à la suite du Grenelle, vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, ce qui a été assez encourageant, parce que on a une loi qui est intervenue, une loi qui est aujourd'hui qui a été publiée au Journal officiel le 29 décembre 2019, qui vise à agir contre les violences au sein de la famille. Donc c'est vraiment une loi récente. Hein. Je sais qu'on peut sont informés de cette loi. Et ce qui est important également, c'est que sur les points qui ont été repris. Tout à l'heure, nous parlions de l'ordonnance de protection. J'attirais l'attention des auditeurs et des auditrices sur le fait justement la difficulté d'obtenir rapidement cette ordonnance. Et justement, fort de ce constat, la loi a prévu justement un certain nombre d'évolutions, à savoir maintenant elle n'est plus conditionnée à l'existence d'une plainte. Ça peut rassurer les auditrices et toute femme victime de violence. Par ailleurs, également, même si la victime et l'auteur des faits ne cohabitent pas, on peut avoir cette ordonnance de protection. Ça, c'est un point important. Et le dernier point, c'était sur les délais. Trop, si vous voulez, c'était trop tard. Les femmes étaient apeurées. Déjà, le fait de saisir la justice est déjà un grand effort et c'est compliqué, c'est dur de le faire. Et surtout, voilà. Donc là, ce qui était prévu, c'est de fixer un délai de 6 jours pour la délivrance à compter, et ça c'est important, du moment où le juge fixe la date de l'audience. C'est-à-dire qu'on a maintenant, la loi prévoit un délai maximum. Ensuite, on a, indépendamment de cette ordonnance de protection, on a généralisé le bracelet anti-rapprochement. Je dis bien généralisé, puisque ça existait déjà. Et je précise, qu'est-ce que le bracelet anti-rapprochement ? C'est un dispositif qui permet de géolocaliser l'auteur des violences en temps réel grâce à un bracelet, mais également la victime via un boîtier. Donc désormais, ça va être possible, et ça c'est une grande avancée, en cas de placement sous contrôle judiciaire, un emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve. Ce qui est important également, c'est que pour éviter les dérives, il est possible uniquement en cas d'infraction punie d'au moins 3 ans. Et à la demande ou avec le consentement express de la victime. Donc là, la volonté affichée du gouvernement est d'avoir plus de 1000 bracelets qui pourraient être mis à disposition en 2020. Autre avancée par rapport à cette loi, c'est justement des logements qui vont être réservés aux victimes de violences conjugales. Et ça, c'est quand même un point qui permettra justement de rassurer ces femmes en disant « je pars, mais je vais où ?». Et justement, on a prévu à titre expérimental et pendant trois ans, la possibilité de louer des logements à des organismes pour les sous-louer à titre temporaire à des personnes victimes de violences. Donc ça, c'est vraiment une véritable avancée. On espère qu'il y aura des fonds, alors des moyens qui pourront être débloqués sur cette problématique-là, parce que le vrai problème, et je pense que je prêche une convaincue, même si c'est qu'on a besoin de former, mais aussi de moyens pour pouvoir répondre, j'allais dire, rapidement à ces femmes qui, je veux dire, sont en danger vital. appels.
Nous, on a parmi nos appels des femmes qui sont avec des enfants, bien sûr. Donc, il y a des hébergements, mais ils veulent pas prendre des enfants.
Bien
c'est
sûr.
Fréquent. Ils veulent des femmes qui travaillent. Et ce n'est pas toujours le cas. Et en plus, ces femmes ne veulent pas aller au SAMU social, ne veulent
bien
pas
sûr,
aller
bien sûr.
Au 115. Donc, effectivement, il y a un grand manque d'hébergement pour ces femmes-là.
Et justement, là, et en plus, vous soulignez à juste titre, mais il y a des gens qui, par exemple, sont dans des milieux plutôt favorisés, n'ont jamais travaillé et elles ne veulent pas aller avec leurs enfants dans un SAMU social. Elles veulent rester dans les mêmes quartiers. Et ça aussi, c'était une possibilité. En tout cas, le gouvernement a eu conscience. Et c'est vrai que nous, dans le cadre de la commission Femmes dans la Cité, on avait interpellé Marlène Schiappa à cet égard en disant il faudrait que l'État se porte caution pour permettre à ces femmes de trouver un logement. Et effectivement, on est dans la droite lignée de nous, ce que nous avons préconisé dans ce cadre-là. Vous avez également un des derniers points, c'était encourager le recours au téléphone grave danger. Hein, c'est un système de téléphone, mais il était peu usité. Donc là, c'était une volonté également d'aller toujours en ce sens. Et vous avez l'avancée sur ce point-là, c'est que sans qu'il soit nécessaire d'attendre une décision de justice. Parce qu'avant, il fallait une décision de justice pour avoir ce téléphone grave danger, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous voyez, donc il y a une évolution. Pour moi, il y a encore beaucoup de travail et j'allais dire le vrai travail qu'il faut absolument faire, indépendamment de former, c'est surtout de prendre conscience qu'on est victime. Et c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de victimes de violences physiques, on a parlé de violences psychologiques, mais on a un peu moins parlé de ces violences sexuelles. Le viol entre époux est condamné et condamnable et est un délit. Est considéré comme une circonstance aggravante, puisque non seulement c'est un crime, mais en plus, l'auteur des faits encourt 20 ans d'emprisonnement.
Je vais vous couper la parole parce qu'on arrive bientôt au terme de l'émission. Le constat que nous avons fait chez Noah, osez le dire, c'est qu'effectivement, les femmes pouvaient parler de violences psychologiques, pouvaient parler de violences physiques, mais n'abordaient jamais le problème du viol ou du rapport forcé, ce qui est quasiment la même chose. Donc, si vous voulez, j'inciterai ces femmes à parler également de ce problème parce que c'est un délit et il faut qu'elles en prennent conscience.
Exactement, elles en prennent conscience et je vais dire surtout au-delà du fait que toute forme de violence doit être dénoncée et condamnée, il faut qu'elles le fassent pour elles et également pour leurs enfants. Qui sont des victimes directes, justement, de ces violences.
Maître Vanessa Elkaïm-Rimer, je vous remercie infiniment de votre intervention. Je vous rappelle que vous étiez à l'écoute de l'émission mensuelle de l'association Noah, osez le dire, que vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 13h à 16h au numéro suivant, le 01 47 07 39 55, je répète, le 01 47 07 39 55, que vous pouvez consulter notre site internet noahosezledire.fr et nous rejoindre sur Facebook. Je vous remercie.
Merci à vous de m'avoir donné la parole.
Et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.